Terre sacrée. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Rey.
Bonjour à tous. L'histoire que nous allons aborder aujourd'hui se trouve contée dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse exactement, au chapitre 11, versets 1 à 9. C'est l'aventure de la tour de Babel. À l'évocation de cet ouvrage inachevé, vous avez peut-être en mémoire un tableau archi-connu, celui de la grande tour de Babel, peint par Peter Bruegel l'Ancien en 1563. Alors avant d'aborder ce sujet, je salue mon invité Anne-Marie Heitzé. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Marie-Madeleine.
Alors vous avez bien voulu étudier ce tableau, qui est un tableau extraordinaire, et nous transmettre vos réflexions. Alors, chers auditeurs, pour trouver cette œuvre sur Internet, je vous invite à aller sur votre moteur de recherche, taper Bruegel, B-R-U-G-H-E-L, la grande tour de Babel, et vous la trouverez très facilement. Vous précisez la grande tour, car il en a peint plusieurs. Alors, les Bruegel sont une grande famille de peintres. Ils ravissent toujours nos yeux à l'heure actuelle, depuis quelques siècles. Et ils ont été très prolifiques et importants dans l'histoire de la peinture. Alors Peter Bruegel dit l'Ancien, c'est le patriarche de la famille. Il est né à Anvers en 1525 et mort à Bruxelles en 1569. L'unité de ses compositions, son talent narratif et son intérêt pour les genres mineurs, enfin un artiste un peu inclassable dans l'histoire de l'art. Mais dans ses tableaux dominés par la vie populaire, on se souvient de ses kermesses par exemple, il montre donc des paysans tels qu'ils sont dans leurs activités et leurs fêtes. Et pour la première fois dans l'histoire de la peinture, la classe rurale est humanisée. Voilà, donc c'est lui, Peter Bruegel, qui a inventé ce genre populaire. Voilà. Alors Anne-Marie, quel fourmillement dans ce tableau de la tour de Babel. On ne sait où donner de la tête.
Une vraie ruche en fait.
Oui.
Et d'ailleurs avec ces galeries superposées, ça semble une alvéole. On dirait des alvéoles.
Oui.
Et ce bâtiment imaginé par Bruegel est inspiré du Colisée de Rome.
Oui. Voilà. On voit la découpe, en diagonale.
En diagonale.
Qui descend du sommet et qui va dans la mer.
Ou l'inverse.
Qui monte progressivement.
Qui monte progressivement de façon circulaire.
Oui.
De façon circulaire avec des arcades.
On dirait qu'il n'y a rien dedans d'ailleurs.
Oui.
C'est le rocher qui. Elle est bâtie sur un rocher. Sur du rocher.
On le voit à un moment donné. Elle est bâtie sur un rocher. Bon, alors ce tableau date de 1563, ce qu'on a dit.
Oui.
Bon, il est très connu.
Oui, il est à Vienne, au musée des Beaux-Arts,
voilà. Parce qu'il fait partie de la collection des Habsbourg, de la famille de Habsbourg. Il avait été hérité par l'empereur Rodolphe, qui était au XVIe siècle un très très grand collectionneur, qui est à la base de la collection donc, que l'on voit à Vienne, hérité de son frère, l'archiduc des Pays-Bas, là, qui régnait sur les Pays-Bas, et c'est la ville d'Anvers qui le lui avait donné. Ce que je trouve intéressant, c'est, est-ce que ce tableau a eu un commanditaire? Est-ce que Bruegel a eu lui-même l'initiative de cette œuvre?
C'était souvent sur commande quand même.
Sur commande, voilà. Ce serait intéressant.
Il en a fait plusieurs.
Donc voilà. Voilà, un peu mystère de ce côté-là. Donc nous avons face de nous cette immense tour prodigieuse qui écrase tout, qui écrase le paysage, qui écrase les personnages.
Parce que tout est minuscule après.
Exactement, les maisons sont toutes petites.
Le paysage derrière est très petit.
Les hommes, ce sont des véritables fourmis. Voilà. Et nous verrons la virtuosité après quand on regarde. Il faudrait une loupe. De près, on peut le voir sur Internet en grossissant.
Oui.
Mais c'est assez incroyable.
Vous avez même des photos, enfin des images représentant des détails. Et là, si vous grossissez, c'est magnifique. Oui, enfin, on voit vraiment la précision du pinceau.
Et la maîtrise de Bruegel, justement, pour retracer de façon très réaliste les techniques de construction de l'époque.
C'est ça. Oui, parce qu'il y a des machines.
Oui,
il y a des machines, il y a des grues, il y a des chèvres.
On va le voir, hein, oui.
Voilà,
oui.
Des monte-charges de l'époque. Hein. Il y a même une roue écureuil.
Une roue écureuil, là, où sont, et les hommes sont dedans.
Oui,
ils
font
tourner la roue.
Oui, oui.
Peut-être faudrait-il quand même lire le livre de la Genèse.
Voilà,
pour situer
on repart au début.
La scène. Alors, livre de la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. » Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit : Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons. Et là, embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre. Ils cessèrent donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre.
Voilà, la punition de Dieu devant l'orgueil des hommes qui voulaient rejoindre le ciel avec la tour de Babel.
Bah, il faut passer aussi ce texte dans le contexte. Nous sommes après le déluge.
Après le déluge, oui.
Les hommes dont on parle, c'est la descendance de Noé.
Oui.
Avec lesquels Dieu a refait une alliance. Nouvelle alliance, c'est pour ça qu'il leur a dit « Dispersez-vous sur toute la terre, maîtrisez la nature, etc. » Et en fait, les hommes, c'est un peu comme le paradis terrestre, avec l'arbre de la connaissance. Ils disent non, nous allons nous installer à un endroit. Et à ce moment-là, ils sont en effet un seul peuple et ils n'ont qu'une langue. Et nous allons nous faire un nom, c'est-à-dire nous allons nous affirmer et vis-à-vis de Dieu, de façon autonome, et ne pas tenir compte de ce que Dieu nous demande.
Voilà.
Ça ne nous convient pas. Et donc, c'est Dieu qui prend cette décision de les disperser et d'embrouiller leur langue. Ça peut choquer au début, ça.
Oui,
mais c'est aussi un sauvetage, finalement, des hommes. Parce que sinon, on allait vers un système totalitaire et fermé.
Oui. Alors, on va revenir peut-être sur la généalogie de ce peuple. Noé a eu trois enfants, Sem, Cam et Japhet. Et là, c'est un descendant de Cam qui mène le peuple. Ce n'est pas dit dans le texte, mais on peut l'interpréter comme ça. Ça a été interprété comme Nemrod qui est représenté dans le tableau.
Oui,
on va y venir. Nemrod qui était un roi donc de ce peuple uni et qui décide de bâtir la tour parce qu'il était révolté contre Dieu. C'était un chasseur, c'était un roi puissant, et il était révolté contre Dieu. Et lui, c'était le petit-fils, alors Nemrod est le fils de Cush, qui lui-même est le fils de Cam. Voilà,
d'accord,
c'est le petit-fils de Cam. C'est l'arrière-petit-fils de Noé, voilà.
Et on voit bien, ses intentions impérieuses, puisqu'en effet, il est dit qu'on veut que la tour tutoie les cieux, s'élève jusqu'aux cieux. Et c'est le cas dans le tableau, parce que le haut de la tour, même s'il est inachevé, il est dans les nuages.
Oui, il y a un nuage qui passe devant.
Bruegel l'a représenté au niveau des nuages.
Il commence à atteindre le ciel. Il était temps de les embrouiller. Voilà, oui, donc ce détail du roi qui est en bas à gauche, il est représenté, donc le roi Nemrod était représenté en tenue du XVIe siècle.
Avec une couronne sur la tête.
Parce que sa tenue, enfin son costume, on peut le rapprocher d'un portrait fait par le Titien de Philippe II d'Espagne.
Oui, alors on a
qui,
dit
au
aussi,
moment
ouais.
où Bruegel peint le tableau, était le...
Le souverain,
le souverain des Pays-Bas.
Les Flandres espagnoles. Bon, et on dit aussi que justement, Bruegel aurait voulu fustiger un petit peu la politique unitaire de Philippe II, assez impérieuse, qui en effet essayait d'unir ses royaumes, toutes ses possessions, de façon assez, justement, un petit peu dure, et aussi en tant que défenseur de la foi catholique.
Et oui, par rapport aux provinces unies du Nord.
Voilà, qui commençaient sans doute à être protestantes.
Voilà. Oui. Alors pourquoi Nemrod? Parce que d'où il vient Nemrod? C'est ça, c'est pas dans le texte. Donc là, c'est l'historien Flavius Joseph au 1er siècle. Flavius Joseph était un juif, historien, mais qui s'est rapproché de Rome, qui était un peu collaborateur avec l'occupant romain. Et c'est lui qui a dit que ça pourrait être Nemrod qui dirigeait le peuple. Voilà.
Bon, c'est inspiré aussi de la Babylone de Nabucodonosor.
Aussi,
hein.
C'est plus tard,
mais il faut savoir quand même que les Assyriens ont détruit Jérusalem, ont déporté le peuple à Babylone, Babylone. C'est approchant.
C'est un peu paradoxal que ce soit Nemrod, parce que Cam, c'est quand même la filiation africaine. Alors que Nemrod
c'est assyrien.
Donc là, il y a un hiatus qui ne colle pas.
Et la tour de Babel peut avoir été aussi inspirée par des ziggourats, c'est-à-dire le fameux temple assyrien à degrés, exactement, qui s'élevait aussi en tournant vers le ciel.
À ce moment-là,
Voilà, donc nous avons alors la tour dans le tableau, elle domine la plaine d'Anvers.
Oui,
en fait,
on voit derrière
Bruegel, a représenté en vert. Sur la droite, nous avons le port.
Oui.
Avec des bateaux. C'est le port en vert est un port sur l'Escaut, de l'estuaire de l'Escaut, avec les bateaux. Et sur l'autre côté, nous avons la campagne, très verte, très riche, et qui s'étend un peu à l'infini. Mais cette tour, elle écrase tout quand même.
Et on sait que c'est dans les Pays-Bas parce qu'il y a un moulin.
Bon, ça c'est possible.
Il y a un moulin,
il y a des tours, il y a des maisons qui sont tout à fait minuscules.
Voilà, puis à droite, donc il y a un port également.
Et ça, on dirait que cette tour, elle flotte. Elle donne l'impression, elle n'est pas accrochée.
Oui, et pourtant elle est sur du rocher.
Elle est sur du rocher, mais on a l'impression qu'elle est.
Mais elle est gigantesque par rapport au petit port qu'il y a sur la droite, qui est déjà monumental parce qu'il y a des tours et des remparts immenses.
Des murailles.
Voilà, et cette tour est vraiment gigantesque par rapport à. Alors, Bruegel a vraiment représenté l'importance de la tour.
Il y a un côté qui est construit.
Oui, à gauche.
Qui est presque fini, qui est même peut-être habité.
Oui,
puisque on voit des petits personnages, on voit des petites maisons
dans un niveau médian là au milieu de la tour.
Au milieu de la tour.
Il y a des ouvertures si on regarde de près, il y en a une qui est habitée par des femmes et des enfants.
Voilà.
Donc, c'était les maisons des ouvriers.
Des ouvriers. Oui, il y a plein de petites constructions tout sur la tour elle-même pour soit abriter le matériel, soit les ouvriers.
Voilà.
Dans ce côté est presque construit.
Alors ce qu'il y a, il parle de briques dans l'évangile. Mais dans la Genèse, mais on la voit la brique.
Alors c'est le centre de la tour, et le côté droit qui lui est en pleine construction.
Oui. Et on voit la fabrication des briques en bas.
Voilà, les briques sont en bas. On voit les palans, tous les ouvriers, tous les instruments de chantier, tous les engins de chantier qui sont au niveau des étages. On voit les hommes qui y travaillent. On voit des hommes sur des échelles, on voit des échafaudages partout, on voit les coffrages.
Oui,
les coffrages.
Il y a même des ânes qui tirent.
Oui, les charrettes.
Qui tirent des charrettes.
Les charrettes qui tirent remplies
des poids.
De pierres.
Alors, comment sont-ils montés, ces pauvres ânes? Parce que les hommes, ils montent par des échelles. Alors,
ouais.
Les ânes,
il y a quand même une espèce de... Dans le rocher, là, on voit des, comme des sentiers, là. Des
chemin,
sentiers multiers,
oui.
Des petits chemins. Et la tour, les échafaudages, ils vont jusqu'en haut, jusque oui. Tout à fait en haut de la tour. Et il y a du monde sur les échafaudages. Donc, en effet, une profusion de personnages
oui.
Incroyables et une précision dans les personnages
voilà, qui s'active vraiment.
En bas, nous avons la carrière de pierre avec le Nemrod, les tailleurs
oui.
De pierre qui sont représentés.
Tailleurs de pierre avec des gros maillets.
Voilà, qui gravent la pierre.
Je vous avoue que j'ai pris ça pour des tonnelés.
Ah non,
la première fois que j'ai vu
maillets,
ça. Et puis je me suis dit, mais non, il y a les ciseaux.
Oui, ils tapent sur les ciseaux. Il y a les hommes qui sont en train d'essayer de déplacer les blocs. Il y en a un qui en transporte un sur son dos. Donc, énormément de précision sur toutes les techniques de construction de l'époque. Et ça, c'est comme Bruegel, quand il fait ses kermesses,
oui.
C'est pareil. Hein,
oui,
il
oui.
A répond,
il
a
est très précis.
Très précis.
Et le détail de la ville derrière
aussi,
est magnifique.
Magnifique aussi.
Magnifique.
Ouais.
On voit toutes les maisons, les ouvertures, les petits personnages. C'est fou.
Oui, c'est une réalisation aussi prodigieuse que pouvait être la tour de Babel.
Voilà. Mais c'est quasiment une enluminure,
ouais.
Hein, ce tableau. Il est assez grand, je pense. Mais
Fait 1 mètre, pas 1,50 m sur 1,14 m, enfin un peu moins de 1,50 m.
Non,
il n'est pas énorme, il est moyen.
Il y en a un autre qui est plus petit, qu'on appelle
la petite tour,
mais
tour
qui n'est pas pareil.
Ce n'est pas du tout pareil, il n'est pas aussi intéressant.
Non.
Celui-ci est vraiment très intéressant. Bon, voilà donc nos hommes qui ont voulu défier les cieux.
Bon,
et
oui,
et malgré ça, Dieu a dit, je ne me laisse pas prendre au piège, vous ferez ce que je voudrais, c'est-à-dire vous serez, vous respecterez les autres, vous apprendrez à vous connaître et vous apprendrez à vous comprendre.
Et voilà, il faudra travailler et vous traduire entre vous.
Voilà, et donc vous aimez finalement.
Et oui, faire un petit effort. Voilà, merci Anne-Marie pour cet échange sur la tour de Babel.
C'est bien peu, hein.
Mais chers auditeurs, je vous invite vraiment fortement pour aller voir ce tableau, si vous ne l'avez déjà fait, et le regarder à la loupe. Voilà, donc merci Anne-Marie.
Merci, merci à vous.
Merci à Maëlle, qui était aux manettes aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous écoutez dans cette émission sur les arts sacrés. Donc, si vous voulez réécouter cette émission et les précédentes, vous pouvez aller sur le site de Radio Présence Cahors. Vous tapez culture et découverte et vous arrivez sur les arts sacrés. Donc, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir Anne-Marie.
Au revoir Marie-Madeleine.
Merci.
Au revoir à tous.
Et au revoir à tous.
Art sacré. Art sacré, une émission présentée par Marie-Madeleine Reille.